cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 12 février 1986.
Je réponds d'abord aux questions posées. Ce sont des questions qui reviennent sur l'aspect tout à fait premier qu'on avait vu dans cette analyse, n'oublions pas, dans cette analyse de philosophie éthique pour découvrir comment naît notre responsabilité morale, sur quoi elle se fonde. Et nous étions partis donc de l'analyse de l'amour d'amitié. Et nous avions vu que ce qui est antérieur à toute responsabilité morale, c'est un premier amour. Alors on pose la question, Église d'Éphèse, le premier amour. Le premier amour est-il une expérience consciente? A-t-on conscience dès le début qu'on vit un premier amour? Eh bien, non. Le premier amour est souterrain. Je vous dis, c'est le duvet du nid. C'est notre cœur qui commence à aimer. Il y a quelque chose de naturel, au sens où saint Thomas dit appétit naturel. Appétit naturel spirituel. Donc, c'est l'aspect naturel très différent que l'instinct. C'est bien évident, c'est pas un instinct. Il y a l'instinct à l'égard de l'aliment, et on le sent particulièrement mercredi des cendres, et c'est fait pour ça, hein, comme expérience philosophique, faut pas l'oublier. Et puis, l'appétit spirituel qui se porte sur le bien spirituel, qui n'est pas un instinct, qui est un appétit naturel spirituel, qui implique une connaissance d'un bien spirituel. Alors, n'oubliez pas, qu'au plan psychologique, je vous l'ai dit, on ne peut pas atteindre ce premier amour. Parce que justement, il n'est pas conscient. Du moins, il n'est pas conscient pour lui-même. Il est conscient qu'à l'intérieur de l'amour d'amitié. Et c'est pour ça que je suis parti de l'expérience de l'amour d'amitié. Je ne suis pas parti de ce premier amour. Si, je vous ai dit, on ne peut pas partir, on ne peut pas essayer de penser une éthique en réfléchissant sur le premier amour qui vous a pincé le cœur. Ce premier amour du tout petit enfant pour sa mère, il est complètement enfoui. Si j'avais une méthode archéologique au point de vue philosophique, j'essaierais de découvrir ce premier amour. Mais je ne peux pas le saisir, ce premier amour. Je suis parti de l'amour d'amitié dont je suis conscient. J'ai des relations avec ceux qui sont proches de moi. J'ai des relations d'amitié et d'amour d'amitié. Et je vois que cet amour d'amitié ne peut naître qu'à partir d'un premier amour. Ce premier amour, je l'étudie philosophiquement comme ce qui est l'éveil profond de ma volonté. Ce premier amour, je peux donc l'atteindre dans mon analyse philosophique. Donc, il est conscient, philosophiquement parlant, mais ce n'est pas du tout la conscience psychologique. Alors disons plutôt une certaine lucidité. Je sais bien ce que c'est, ce premier amour. Il ne faut pas dire du tout que c'est quelque chose que j'ignore, et donc qui est quelque chose qui est préconscient ou inconscient. C'est pas du tout l'inconscient. C'est la source de toute la conscience affective. Et donc, d'une certaine manière, puisqu'il est la source, il est quelque chose de plus éminent. Mais il est très fondamental. Et c'est dans ce sens qu'il est premier. m'en aperçois ordinairement quand je suis séparé de mon bien. C'est comme ça, du reste, que la plupart du temps, la conscience d'un amour se manifeste le mieux par la négation. Quand je vis avec quelqu'un que j'aime, je ne fais pas attention. Et quand je suis séparé, il y a un trou. Il y a un vide. Il y a quelque chose qui ne va plus. Alors on peut à ce moment-là comprendre que c'est vrai, ce premier amour, il est conscient d'une conscience intellectuelle et pas psychologique. C'est là où il faut séparer la conscience psychologique de la pénétration intellectuelle. Vous voyez, c'est très gros, conscient et inconscient. Vous savez, ça, c'est la grosse batterie. C'est très, très gros. Parce que c'est bien plus subtil que ça. La conscience psychologique, j'ai conscience psychologiquement que je m'ennuie un cours. Là, oui, c'est très gros. J'ai conscience psychologiquement que je m'intéresse à un cours. Et ordinairement, on s'aperçoit en fonction de la longueur psychologique du cours. Le cours a toujours objectivement la même longueur, du moins normalement. Il a objectivement la même longueur. Et psychologiquement, il y a des longueurs très différentes. Je n'y comprends rien. Alors c'est très long. C'est vrai, c'est long. Et c'est comme les nuits, on ne dort pas. Alors c'est très long. Parce que la nuit est faite pour dormir. Alors quand vous ne dormez pas, c'est très long. Vous regardez votre montre tous les quarts d'heure, vous dites, ça n'avance pas. Quand vous dormez, ça va très vite. Alors, vous voyez, il y a une conscience psychologique assez grosse. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est l'intelligence qui pénètre. C'est pour ça que je dirais la lucidité. C'est une lucidité. L'intelligence est auto-lucide. Pénètre plus avant. Alors, ce premier amour, il y a une certaine lucidité. Mais il n'est jamais vécu à l'état pur. Jamais. Je ne vais pas m'arrêter à ce premier amour. Ce premier amour, il est vécu dans l'intention, il est vécu dans le choix, l'ami. Il est présent. Mais il représente, dans l'analyse philosophique que je fais, le premier moment fondamental de l'éveil de mon cœur, de l'éveil de ma volonté. Encore une autre question. Une expérience peut-elle être inconsciente? Voilà la réponse. Une expérience n'est jamais inconsciente. Mais ce n'est pas toujours la conscience psychologique. Bien que l'expérience demande d'être vécue, quand elle est pleinement vécue, selon une conscience psychologique. Mais pas toujours, vous voyez. Si je prends la conscience psychologique au sens très fort, je m'arrête à cette conscience psychologique. Et c'est quelquefois désastreux. On se tape le pouls. Toute expérience n'est pas vécue à ce niveau. L'expérience, elle est vécue en vue de ma vie. Donc, si je dis conscience psychologique et inconscience, vous voyez, ce que je dis, c'est gros. Il y a la conscience que j'ai de travailler. C'est une expérience. Mais vous ne vous arrêtez pas dans votre travail pour dire, j'ai conscience de travailler, oui. Je travaille bien aujourd'hui. Vous pouvez faire ça à la fin. Et quelquefois, vous ne le faites même pas. Parce que vous offrez votre travail. Vous le donnez. Donc, vous dépassez l'aspect conscience psychologique. Quand vous travaillez, vous avez conscience de travailler, mais vous ne vous arrêtez pas à la conscience pour mieux travailler. Quand vous travaillez, vous êtes pris par ce que vous faites, entièrement pris par ce que vous faites. Tandis que si vous avez cette attitude réflexive, vous êtes moins pris par ce que vous faites. C'est dans ce sens-là, vous voyez, que si on est très saisi par ce qu'on fait, on a moins de conscience psychologique. On a une plus grande lucidité. Alors ce serait ça qui serait très intéressant à étudier. La conscience psychologique implique une réflexion. La lucidité n'implique pas d'attitude réflexive. Elle implique simplement ce regard plus pénétrant qui va plus loin. Vous avez la conscience psychologique, la conscience morale, et vous avez la lucidité de vivre le travail que vous faites. Quand vous conduisez en automobile, est-ce que vous avez conscience de bien conduire ? Si vous avez conscience de bien conduire, patatras, c'est à ce moment-là qu'il arrivera quelque chose pour vous déloger de cette autosatisfaction de bien conduire. Mais je conduis admirablement, personne ne conduit aussi bien. Vous avez vu la manière dont j'ai pris mon tournant, patatras, il y a quelque chose qui arrête là immédiatement. La conscience psychologique arrête l'élan. C'est très curieux ça. Alors, il ne s'agit pas de devenir inconscient, c'est d'être lucide vis-à-vis de la finalité. C'est la finalité qui nous rend lucide. C'est l'acte. On n'est pas conscient de l'acte, on est lucide. Et lucidité de l'intelligence qui dépasse la conscience psychologique, qui va beaucoup plus loin. Quelle distinction faut-il faire entre avoir conscience et avoir connaissance ? Voilà. Avoir conscience implique la réflexion. Avoir connaissance, c'est-à-dire on sait qu'on connaît, qu'on travaille, qu'on aime, c'est la lucidité. C'est pas la même chose du tout. Alors, nous disons toujours qu'il faut aimer l'ami pour lui-même. Oui, et je le répète. Le véritable amour d'amitié, c'est aimer l'ami pour lui-même. On ne le dit pas trop quand on aime quelqu'un. Je t'aime pour toi, tu sais. Tu peux me faire souffrir, mais je t'aime pour toi. Alors l'ami continue de vous faire souffrir. Je t'aime pour toi, c'est pour toi que je t'aime. Ou encore, l'ami est mon bien personnel. Oui, les deux choses sont vraies. Mais pas tout à fait la même chose, hein. Vous voyez bien. J'aime l'ami pour lui-même. Ça, c'est la finalité. J'aime l'ami comme mon bien personnel. C'est par rapport à moi. Les deux choses ne s'opposent pas. Alors on va voir. N'y a-t-il pas là une opposition ? Eh bien non, il n'y a pas d'opposition. Comment un bien personnel peut-il encore être aimé pour lui-même ? Le bien personnel peut être vécu au niveau psychologique et passionnel. Alors, c'est mon bien. C'est mon bonbon. Je le mets dans ma poche pour être sûr que personne ne le prendra. C'est mon bien, l'instinct de propriété. J'accapare. Quand on accapare, c'est nous qui finalisons le bien. Tandis que quand on aime l'autre pour lui, on est tourné vers lui. Et c'est lui qu'on regarde. Et c'est à ce moment-là qu'il est mon bien, au plan philosophique. Qu'il est mon bien personnel, spirituel. Le bien spirituel ne peut être que celui qu'on aime pour lui-même. C'est le bien personnel qui finalise. Oui, c'est toute la distinction que nous allons voir maintenant, du reste, nous conduit directement à cela. La distinction entre aimer un moyen et aimer une fin. Quand j'aime l'ami, je l'aime comme ce qui est mon bien, c'est-à-dire ce qui me finalise. Et je l'aime pour lui-même, comme un certain absolu. Quand j'aime au contraire un bonbon. La sucette. Je l'aime pour moi. Comme ce qui me procure un peu de joie, un peu de jouissance. Tant que le gosse a sa sucette, il ne crie pas. Il est satisfait. Alors, il aime ce bien pour lui, mais d'un accaparement. Il n'aime pas du tout pour lui, pour l'autre, je dirais. C'est l'accaparement. Vous avez le droit d'accaparer un moyen, mais jamais une fin. Le jour où on accapare une fin, on la détruit. Elle n'est donc plus mon bien personnel. Oui, et quand je dis bien personnel, c'est pour montrer justement que c'est un bien absolu qui s'impose. Et qui s'impose comme ce qui est capable de me finaliser. Je ne dirais pas que le bonbon, c'est un bien personnel. Pauvre personne. Parce que ça voudrait dire que la personne est à ce niveau-là. Dis-moi qui tu es, mais je te dirai qui tu es. Alors vous voyez la conséquence. Hein. Parce que c'est vrai. C'est l'accaparement nous diminue. Aimer l'autre, pour lui, ça nous agrandit. Et c'est toujours l'amour. Mais d'un côté, c'est un amour passionnel qui accapare. Et d'autre côté, c'est un amour spirituel qui me met en extase. Qui me met dans cette ouverture. Alors je sais très bien, les deux sont très liés. Quand nous aimons, mais il y a un aspect passionnel, puis un aspect spirituel. Et c'est ça les purifications de l'amour. Et les purifications de l'amour au plan philosophique, c'est de faire que l'élément spirituel domine l'élément passionnel. Mais au début, les deux sont très liés. Et il y a un moment où, imaginativement, l'aspect passionnel domine. Et il y a un moment où l'aspect spirituel, au-delà de l'imaginaire, domine. C'est tout le temps comme ça. La période des fiançailles, j'ai des fiancés, c'est leur apprendre à aimer spirituellement. Et quand on doit prêcher à des fiancés, c'est ça qu'on doit leur apprendre. Parce que c'est la préparation. Le noviciat, c'est quoi ? C'est la purification de l'amour passionnel pour l'amour spirituel et divin. Alors, c'est pas étonnant qu'il y ait des pleurs et des grincements dedans. Parce que c'est pas drôle. Et le noviciat, comme on est toujours novice du Saint-Esprit, ça se fait tout le temps. Purification constante. Parce qu'on doit arriver à aimer d'une manière désintéressée. C'est-à-dire d'une façon spirituelle. D'aimer vraiment. L'amour nous met au-delà de nous. Donc, entrons, si vous voulez, dans ce que représente ce troisième moment de l'analyse de l'activité morale. Ce troisième moment, c'est l'amour que j'ai à l'égard des moyens. Et je vous disais qu'il y a trois manières de regarder les moyens. Les moyens, c'est un bien relatif. C'est un bien qui est incapable d'être mon bien spirituel. Le moyen, c'est un bien que j'utilise. J'utilise ce bien en vue d'atteindre ma fin. Et c'est le propre de l'attitude du choix, de choisir tel moyen plutôt que tel autre. Parce que ce moyen m'apparaît comme plus capable d'atteindre ma fin. Alors je choisis ce moyen plutôt qu'un autre moyen. Alors, le moyen se présente à nous, d'abord, dans l'analyse philosophique, comme un bien relatif. Mais vous comprenez que le bien est discerné comme relatif dans la mesure où j'ai découvert la fin. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois que la distinction fin et moyen est analogue à la distinction substance-accident dans l'ordre spéculatif. C'est toujours intéressant de voir ça. Je ne peux parler de moyen que quand j'ai saisi ma fin. Tant que je n'ai pas saisi ma fin, je ne sais pas très bien. Tant que la finalité n'est pas saisie, les moyens ne se présentent pas à moi vraiment comme des moyens, c'est-à-dire comme quelque chose de relatif à un autre. Ils sont un certain bien. Alors, si je n'ai pas saisi ma fin avec netteté, il y a un engloutissement. Je ne sais pas très bien si c'est des moyens ou si c'est la fin. Si ce sont des moyens conjoints à la fin ou pas. Et c'est ce qui explique le manque de liberté. C'est très curieux. C'est sûrement dans le discernement que je fais des moyens et de la fin que la liberté va apparaître de la manière la plus nette. La liberté existe avant. Nous le verrons au terme. Je vous signale tout de suite maintenant, et on reviendra là-dessus, parce que c'est quand même très important, de voir où la liberté naît dans notre activité morale. Je ne peux pas dire tout acte moral est nécessairement libre. Est-ce que je peux dire ça? Posez la question et essayez d'y répondre. Tout acte moral est nécessairement libre. Est-ce que je peux faire adéquation, acte moral égale acte libre? C'est pas si commode que ça de répondre. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il s'agit du choix des moyens, je suis en présence d'un acte libre. Je choisis librement tel moyen. Ou bien vous dites, c'est très ennuyeux. Il n'y a que ce moyen pour atteindre ma fin. Ce moyen s'impose à moi de cette façon telle qu'il n'y a que ce moyen-là. Et on est très ennuyé. Parce que le moyen demande d'être choisi librement. Quand un moyen s'impose d'une façon nécessaire, et que vous dites à quelqu'un, mon cher, il n'y a pas moyen de t'en tirer autrement. Tu dois entrer dans cette boutique. Il n'y a pas moyen d'entrer dans, de faire autrement. Tu ne peux faire ton salut qu'en entrant dans la communauté Saint-Jean. La communauté Saint-Jean, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin. Tu ne peux faire ton salut que de cette manière-là. Tu sais, toi, non, non. Pas vraiment choisir. Quand le moyen apparaît comme conjoint à la fin d'une façon telle qu'il s'impose, il y a une peu de contrainte. C'est ça qu'on appelle la contrainte. La fameuse contrainte, vous savez, c'est l'exemple que prend toujours saint Thomas à la suite du reste des philosophes. C'est celui qui est dans une tempête. C'était le petit bateau d'avant, parce que maintenant, ça ne se voit plus. Les petits bateaux d'avant, la petite barque. Il est dans une tempête. Alors, il a des grosses provisions. De sorte que le bateau est lourd. Alors, pour se sauver, il met à l'eau toutes les provisions qu'il a, tout ce qu'il avait emporté, pour s'alléger. Il ne choisit pas du tout. Il est contraint. C'est un acte qui s'impose à nous d'une façon tout à fait particulière. Je prends cet exemple-là, prenez n'importe quel autre exemple. Il y a des moyens qui s'imposent à nous d'une manière telle qu'on ne voit pas de possibilité d'atteindre sa fin qu'en passant par ce moyen. Alors aussi, c'est très ennuyeux. ne choisis plus ce moyen. Il est lié à ma fin. Au point de vue artistique, ça arrive constamment, ça. Dans l'ordre de l'art, il y a des moyens qui sont tellement liés à ce qu'on cherche, qui s'imposent. Mais au point de vue artistique, c'est pas gênant, au contraire. L'artiste aime un moyen qui s'impose d'une façon impérative. Je dirais qu'il n'agit vraiment en artiste qu'à ce moment-là. Tandis que l'homme moral, l'ami, c'est tout à fait différent. C'est là où on voit la plus grande différence entre la psychologie de l'artiste et la psychologie de l'homme moral. La psychologie de l'artiste aime d'être contraint. Un artiste aime d'être contraint. Ça, il aime d'aller vers le nécessaire. Les voies déterminées de l'art, comme dit saint Thomas. Ça, c'est très fort. Les voies déterminées de l'art, c'est Aristote, du reste. Et au contraire, l'homme prudent, l'homme moral, sait que dans des circonstances différentes, les moyens sont différents. L'homme prudent n'aime pas les voies déterminées par rapport aux moyens. Il veut les choisir. Il prendra du recul si c'est nécessaire pour mieux choisir, pour mieux opter librement. Et là, le recul, quelquefois, est nécessaire par rapport aux moyens. Le recul n'est pas bon par rapport à la fin, mais par rapport aux moyens, il est bon. Parce que les moyens doivent être choisis librement, tandis que la fin s'impose. Ça, c'est très important de comprendre ça, au point de vue de notre psychisme, lié à l'attitude morale. Donc, je reviens, le moyen comme tel est ce qui détermine le choix. Le choix, l'élection. Je choisis ce moyen en vue de la fin. Et moment d'invocation, quoi. Je choisis tel métier, je choisis telle communauté religieuse, je choisis tel séminaire, en vue de la fin. Et dans vos études, je choisis de m'orienter vers telle manière de chercher la vérité. Parce que nous cherchons la vérité, si nous sommes intelligents. Nous cherchons la vérité parce que nous savons que c'est ça la finalité. Comment cherchez-vous la finalité? Quels sont les moyens? Alors vous avez des maîtres vivants et des maîtres morts. C'est Topfer qui dit ça, c'est très joli. Voyage en zigzag. De Topfer, il dit, il y a des moyens vivants, il y a des maîtres morts et des maîtres vivants. Alors vous choisissez ceux qui vous conduiront de la manière la plus sûre vers la vérité. Évidemment, vous pouvez toujours faire un voyage en zigzag. En disant, je suis séduit par tel, je sais très bien qu'il ne me conduira pas par la vérité, mais ça m'intéresse. Très bien, faites-le, vous allez perdre du temps, tant pis. Vous le savez, l'homme moral qui cherche la vérité dira, je ne veux pas perdre de temps. Et le petit artiste qui est en nous dira, oh, ça m'intéresse, tant pis pour le temps, mais ça m'intéresse, je me laisse séduire. On est tout le temps devant ça, si on est un tout petit peu lucide vis-à-vis de notre vie. On sait qu'il y a en nous un petit artiste. Pas un grand, mais un petit. Quelquefois un grand, ça peut exister. Puis il y a en nous l'homme moral, l'ami du Christ. Celui qui veut être l'ami du Christ et qui sait que pour être l'ami du Christ, il faut chercher la vérité. C'est nécessaire. Parce que toute erreur consciente diminue l'amour. Une fois qu'on a compris que toute erreur consciente diminue l'amour, on ne veut pas l'erreur consciente. On veut la vérité, et la vérité demande cette conscience. Alors, on choisit les moyens de la manière la plus lucide qui soit. Il y a un choix. Il y a même des retraits d'élection. 30 jours au pain et à l'eau, sous la conduite de quelqu'un, pour qu'au bout de 30 jours, vous soyez capable de choisir. Le carême est une grande retraite d'élection, classique dans l'Église. C'est une grande retraite. interdélation pour choisir. Pour choisir la croix. Moyen divin. C'est ça. Si on essaie de comprendre. Retraite d'élection. Ça veut dire quelque chose, la retraite d'élection. Hein. C'est quelque chose de très particulier. Choisir. Le choix porte sur des moyens. Le choix, au sens strict, ne porte pas sur la fin. La fin s'impose. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous ne dites pas, oui, vous dites bien, je t'ai choisi au milieu de 10 000, mais en réalité, dans le fond de votre cœur, vous savez que ça s'impose. C'est très curieux. C'est pour ça que la vocation, vous voyez, a toujours deux aspects. Il y a la vocation dans le don du Christ. Quand on a découvert le Christ, c'est beaucoup plus que choisir. Il s'impose, le jeune homme riche. Il s'en alla triste. Donc ça prouve que le Christ s'est imposé. Et s'est imposé d'une manière impérative. On sait qu'on ne peut pas ne pas l'aimer. Une fois qu'on l'a découvert. Mais la voie pour aller vers lui, des moyens multiples, des moyens divers. Et quand il n'y a qu'un seul moyen, c'est toujours très ennuyeux. Parce que le choix du moyen ne peut pas être vraiment choisi librement. Et c'est pour ça que c'est bon, quelquefois, de prendre un peu de recul. Pour qu'on comprenne mieux que ce choix s'impose de façon librement. Donc, le choix regarde un moyen. Un moyen, c'est un bien relatif. C'est pas un bien absolu. Mais dans les moyens, il y a du plus et du moins. Alors, c'est là où il faut bien comprendre ce que c'est que ce choix. Il y a du plus et du moins. Les moyens, normalement, sont multiples. C'est pour ça que pour mieux choisir, il y a la phase d'information, d'investigation. Je regarde. Ceux qui regardent, c'est pour mieux choisir. Ils vont à droite, à gauche, dans des positions ultimes, pour mieux choisir. Ils ont regardé à droite et à gauche. Donc il y a une phase d'information. Une phase intellectuelle, de l'intelligence pratique. Alors on peut ou regarder les bouquins, il y a des bouquins d'information. On vous montre toutes les nouvelles congrégations religieuses, toutes les anciennes, tout. Et au bout d'un certain temps, vous avez lu tout ça, vous ne savez absolument plus rien du tout. Vous ne pouvez plus, c'est trop vaste, tout ça. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez voir. C'est en allant voir qu'on a l'expérience du moyen. C'est comme pour la cuisine. C'est analogue. C'est comme pour la cuisine. Un livre de cuisine, vous voyez tous les mets. Le petit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Pas le vendredi, pas le mercredi, ça c'est facile. Ça, c'est un... L'art est là pour donner des moyens très très simples. Art chrétien purifie la cuisine du mercredi. C'est alors. Hein. Mais autrement, un jour de fête, pour faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait, pour Noël, pour Pâques, pour une ordination. Alors, les moyens sont multiples. Mais on va choisir en ayant déjà soi-même expérimenté. J'ai fait ça, c'était très bon. Ça. Oui, le choix des moyens, il faut bien comprendre ce que c'est que le choix des moyens. L'élection, c'est un acte qui implique une information, qui implique le conseil. Je demande conseil. Ça aussi, c'est très particulier à l'acte moral. L'artiste ne demande pas conseil. Un artiste qui commence à demander conseil, il peut le faire par gentillesse. Mais c'est pas l'artiste. L'artiste, c'est simple. C'est comme ça. Vous comprenez pas ? Tant pis. Moi, je sais que c'est comme ça que je dois faire. Pas faire autrement. En même temps, comme au point de vue intellectuel, vous ne demandez pas conseil. Hein, on peut vous critiquer, hein, c'est très très bien. Vous montrez que vous êtes trompé, parce que c'est pas toujours infaillible. Quand vous prétendez que c'est ça, très très bien, faites-le, on verra. Et on vous critiquera après, quand vous aurez fait. Pas sur le moment du choix. Non, non, faites-le. Allez-y jusqu'au bout. Le choix implique le conseil, implique l'information. Pour prendre plus de recul. Vous voyez, dans l'information, elle peut être plus ou moins objective. Je m'informe auprès de mes amis. Parce qu'il n'y a qu'eux qui me connaissent bien. Il n'y a qu'eux qui connaissent tous mes défauts, toutes mes qualités. Donc je m'informe. Je m'informe auprès d'amis qui surtout sont pleins d'admiration pour moi. Mais je ne m'informe pas auprès d'amis qui sont plus critiques. Il y a un choix dans l'information qui oriente déjà mon choix. Le choix politique. Choisir, on peut. Alors, vous voyez, c'est très intéressant de voir que le choix est toujours subjectif. Et que l'information, même quand elle prétend être objective, elle implique nécessairement, elle aussi, un choix. Parce qu'autrement, vous ne choisiriez jamais. L'information est tellement vaste. La phase d'information, qui est importante, la phase de conseil. Choisir, c'est l'intelligence et l'amour. C'est l'acte où l'intelligence et l'amour sont le plus liés. Vous ne pouvez pas dire que dans le choix, l'amour prime la connaissance. Non. Vous ne pouvez pas dire qu'en dans le choix, que la connaissance prime l'amour. Non. J'allais presque dire, les deux sont intimement liés. C'est pour ça qu'un choix important, pas le choix de petites choses secondaires, choisir une casserole plutôt qu'une autre, très bien, laisser ça aux gens compétents, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ceux qui ont l'exercice et l'usage, parce que c'est eux les compétents. C'est pas a priori. Vous savez bien, les gens qui font ça selon un plan d'ensemble et qui n'ont jamais mis la main à la pâte font de très graves erreurs quand ils construisent une cuisine. Ils savent pas. C'est ceux qui ont l'usage qui sont les gens compétents. C'est très important. On demande conseil aux gens compétents, ceux qui ont l'usage. Et pas la théorie. Parce que ce serait appliquer les principes à l'aspect pratique. Ça, c'est pas du tout comme ça. Dans l'ordre pratique, on découvre les principes à partir même de l'usage. C'est toujours très important, ça. Parce que la phase d'information est très importante. Quand il s'agit de choisir. Et il faut demander aux gens compétents, ceux qui ont l'usage de la chose. Quand vous n'êtes jamais servi d'une casserole, comment voulez-vous donner un conseil pour savoir s'il faut une casserole carrée, ronde, grande, petite? Vous ne pouvez pas le savoir. Vous dites ça a priori. Je prends cet exemple-là parce qu'il n'offense personne. Mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait prendre qui offenseraient les oreilles pies. N'est-ce pas? Tandis que là, tu n'offenses personne, la casserole. C'est l'usage qui me fait comprendre ce que c'est qu'un moyen. Et la valeur d'un moyen. Et je dis bien la valeur d'un moyen. Vous voyez, il y a la bonté du moyen. Et la bonté du moyen, c'est ordinairement sa valeur. C'est très curieux. La philosophie des valeurs, elle joue à ce niveau des moyens. Et on comprend très bien, parce que la valeur relève d'un jugement d'estimation. C'est le jugement d'estimation, la valeur. C'est pas l'amour. Le bien, c'est l'amour. Eh bien, dans la proairesis, qui est le choix, la proairesis, le mot grec est très beau, hein, quand on choisit, eh bien, quand on choisit, il y a le jugement d'estimation qui me fait comprendre la valeur du moyen. Et puis il y a l'amour de ce moyen qui fait comprendre le bien de ce moyen. Et les deux sont liés dedans. Donc la valeur est enveloppée par l'amour, mais elle est du côté de la connaissance que j'ai de ce moyen. Et j'ai la connaissance de ce moyen. Un moyen, je ne le connais que quand il a été pour moi utilisé. Tant qu'un moyen n'est pas utilisé, vous risquez toujours de vous laisser prendre par la propagande. Vous entrez dans un magasin, vous voyez des outils tout à fait nouveaux, vous entendez celui qui veut le vendre et qui en montre tous les avantages merveilleux. Vous rentrez chez vous, vous voulez l'utiliser et vous apercevez que ce n'est pas ça du tout. Vous avez été attrapé. Le moyen, c'est très important. Vous ne dites pas ça pour la fin. Vous dites ça pour le moyen. La valeur d'un moyen se décèle à l'usage. Et l'usage est nécessaire à l'intérieur de ce que représente la qualité d'un moyen. C'est très spécial un moyen, très particulier. Un bien relatif. Relatif, alors c'est là où il faut bien comprendre. Un bien relatif à la fin que je poursuis. Et un bien relatif à celui qui s'en sert. C'est en ce sens-là, vous voyez, que la bonté du moyen et la valeur du moyen a toujours deux aspects. Il y a des moyens qui sont plus proches de la fin que je poursuis. Et des moyens qui sont plus loin de mon usage. On voit ça chez les vieux ouvriers. Ils sont tellement habitués à leur outil que quand il s'agit de changer d'outil, c'est une révolution. Pire que tout. On leur dit ce moyen, mais il est beaucoup plus moderne, il est bien plus efficace, il est beaucoup plus... Bon, très bien, objectivement parlant. Mais subjectivement parlant, pas du tout. Laissez le vieil ouvrier avec ses outils ou laissez-le choisir lui-même. Vous voyez, ça c'est très important de saisir que lorsqu'il s'agit du moyen, il y a une double relation. La relation à la fin, la relation à celui qui s'en sert. Alors ce serait ça qui serait intéressant à bien saisir, à celui qui s'en sert. Celui qui s'en sert peut être un paresseux, ça existe. Alors celui-là prendra le moyen le plus facile. Ou celui qui s'en sert peut être très ardent dans son travail, alors il prendra le moyen le plus efficace. C'est pour ça que le choix d'un moyen est tellement révélateur de la personne humaine. Ce sont des tests admirables, ça, au point de vue pratique, par la manière dont on choisit un moyen. Et ça peut se voir tout de suite, ça. Vous voyez comme c'est complexe. Hein. Alors le moyen, un faisceau de relations. Il y a un faisceau de relations pour le moyen. Le bien utile est bien objectif. Mais ce bien utile est enveloppé de subjectivité. Puisqu'il est lié à celui qui s'en sert. Il est lié à la passion de celui qui s'en sert. Il est lié à la finalité. Ça, c'est le moyen. Alors, la phase d'information éclaire le jugement d'estimation objectif sur la valeur du moyen. Mais la valeur du moyen n'est pas ce qui décide en dernier lieu. La décision dernière, c'est l'usage que je fais de ce moyen. Parce que, en dernier lieu, le moyen est d'ordre pratique et donc il regarde celui qui s'en sert. Et c'est donc celui qui s'en sert en dernier lieu. Vous voyez, quand il s'agit du choix d'un moyen, l'objectivité, c'est la subjectivité de celui qui s'en sert. Et vouloir considérer que l'objectivité, c'est la relation à la fin, c'est un aspect théorique. Et qui n'est pas pratique. C'est le conflit constant du mécano et du théoricien, du jeune ingénieur et de celui qui est habitué à travailler. Il y a un conflit constant, là, sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain qu'on voit le conflit. Parce que celui qui travaille, c'est l'usage. Celui qui est théoricien, c'est la dernière méthode et le dernier outil. Le complexe qu'il soit, ça n'a pas d'importance. C'est celui-là qui s'impose. Alors ça, c'est théorique. Oui, comme c'est curieux, le champ de bataille du choix. Alors, je prends à l'extérieur, mais prenez le champ de bataille du choix à l'intérieur. Il y a une bataille terrible quand il s'agit de choisir. Surtout pour des gens intelligents. Parce qu'il n'y a pas d'absolu. Il faut s'engager dans le contingent. C'est terrible de s'engager dans le contingent. Et quelquefois, ce contingent, il détermine toute ma finalité.